RCF.
Alors, c'est l'histoire de... Eh ben, justement, on ne sait pas de quoi c'est l'histoire, puisque tout est improvisé. La compagnie bordelaise La Cabale présente le spectacle Sauvage. Trois comédiens se tournent autour, une idée vient à l'un d'eux, lâche une phrase qui fait comprendre la situation à son partenaire, l'autre enchaîne et ça dure une heure environ. Un thème est tout de même avancé par le titre du spectacle, Sauvage. On va voir en quoi les personnages sont sauvages dans ce spectacle et les conditions dans notre vie de tous les jours qui fait qu'on peut peut-être nous-mêmes le devenir. Tom Phoenix, vous êtes comédien, improvisateur et directeur artistique de La Cabale. Bonjour.
Bonjour.
Il faudra absolument tout à l'heure citer le nom de vos deux complices qui vous accompagnent sur scène lors de cette première création de votre compagnie. Vous jouez Sauvage chaque jeudi jusqu'à la fin de l'année dans différents lieux de Bordeaux. En ce moment, c'est au théâtre La Rousselle, 77 rue de La Rousselle à Bordeaux, mais vous jouerez aussi à l'Improvidence. Mais avant d'en parler, avant d'y revenir, le sommaire du reste de notre émission. Le vendredi, on part dans des lieux d'art et d'exposition. Avec vous deux, Béatrice et Bertrand Dupuis, où est-ce qu'on va cette semaine?
Nous allons à Langoiran, en quai de Bordeaux, et on va voir une magnifique exposition qui s'appelle « Noirs et blancs à l'œuvre ».
On remonte le temps aussi avec vous, Gwenaëlle Lamarque, à la date anniversaire de ce jour. Jusqu'où revient-on?
On va s'envoyer en l'air le 19 octobre 1783.
Voilà qui est prometteur. Redescendra-t-on sur Terre avec le concert classique prochain que vous allez nous présenter, Aude Pénicaud, pas sûr, lequel avez-vous choisi?
Eh bien moi, je vous emmène écouter des chanteurs à bout de souffle.
Alors si tout le monde est là, eh bien allons-y.
L'as-tu vu? RCF Bordeaux.
Pour commencer nos émissions chaque jour, on demande à l'invité de la veille de poser une question à l'invité du lendemain. Et vous êtes aujourd'hui l'invité du lendemain, Tom Phoenix. Hier, on parlait déjà théâtre avec Bruno Courcelles et Nicole Tajan-Lucas qui ont écrit et mis en scène le journal d'Octave, inspiré des contes cruels d'Octave Mirbeau. C'est au théâtre La Lucarne de Bordeaux-Saint-Michel, encore ce soir et demain à 20h. Nicole Tajan-Lucas vous a posé cette question. Alors pour commencer, ce l'as-tu vu, on se souvient.
Cette improvisation, elle est quand même préparée un petit peu, je pense. C'est la question que je pose.
Bien voilà, Tom Phoenix, vous avez entendu cette question de Nicole Tajan-Lucas, une réponse à lui apporter, un pro total?
Et un pro total, ouais. Alors effectivement, non, mais c'est quand même préparé dans le sens où on travaille, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas 10 minutes avant sur le plateau en se disant « bon, bah, ce soir on verra ». Il y a des méthodes qui sont appliquées, notamment on travaille avec une méthode qui s'appelle la méthode slow, qui est créée par deux Lyonnais, Mathieu Loss et Marco Mayerl. Et donc on a travaillé cette méthode, on a travaillé beaucoup, on travaille la dramaturgie du spectacle, on travaille ces choses-là. Par contre, sur les thématiques qui vont être abordées, les personnages qui vont arriver, les répliques qui vont se dire, les corps qui vont se mettre en mouvement, tout ça c'est 100% improvisé, c'est 100% découvert avec le public.
Slow, ça veut dire quoi? C'est de l'anglais?
Oui, c'est de l'anglais. Ce nom-là l'aurait venu. Alors, il faudrait demander au créateur, mais je pense parce que simplement, c'est une méthode qui prend le temps comparé à l'improvisation qui est souvent très réactive, qui a une volonté de punch. Nous, on n'est pas forcément dans cette volonté première. On est d'abord dans le « qu'est-ce que ça raconte finalement cette histoire ? C'est quoi qu'il y a derrière tout ça ? C'est quoi qu'il y a de plus grand que l'anecdote et le moment qu'on est en train de vivre ?» quoi.
On va y revenir forcément sur cette méthode parce que ça type beaucoup votre spectacle et votre manière d'improviser par rapport à d'autres spectacles du genre. On entendait une question de Nicole Tajan-Lucas, on sent dans sa question le souci de la metteuse en scène qui dit à quel endroit le comédien doit se placer pour dire quelle réplique, mais il y a quand même une trame, disait-elle, c'est pas possible. Est-ce que c'est un souci que vous portez vous en tant que directeur artistique, d'une part de la compagnie La Cabale, mais peut-être voilà, d'une troupe de théâtre d'improvisation en général? Est-ce que c'est un souci le placement du comédien et ce qui va se passer?
Ouais, la mise en scène est primordiale, sauf qu'on admet qu'elle se fait en direct. C'est-à-dire que comme notre méthode est inversée, on démarre par le corps. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque chose de corporel qui va créer la scène, la faire émerger, puisqu'on a vraiment cette conviction-là que la scène émerge et qu'on est là juste pour la faire découvrir, pas pour l'imposer. Donc c'est pas une idée en fait qui nous vient, c'est quelque chose dans l'espace. Et donc en fait la mise en scène, elle est déjà faite. Nous on arrive avec une mise en scène qui est déjà posée. Il y a un acteur qui est collé au mur et qui est en train de taper dedans. Il y en a un autre qui est derrière et qui le regarde. Bon bah ça. Et ça, c'est notre mise en scène. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça raconte en fait et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir avec le public?
Et est-ce que ça raconte des choses identiques pour les deux comédiens? C'est parfois là toute l'ambiguïté de ce que vous proposez. On va revenir, Tom Phoenix, sur vos manières de faire au sein de la compagnie La Cabale dans votre spectacle Sauvage. Une approche différente du théâtre d'improvisation. Spectacle joué chaque jeudi jusqu'à la fin de l'année à Bordeaux. En ce moment, c'est au théâtre La Rousselle. Mais tout d'abord sur RCF, c'est l'heure des infos et on revient juste après.
Nouvelle d'Aquitaine, le journal d'information régionale, Blandine Jana.
Bonjour à tous. Au sommaire, ce vendredi, un élan de solidarité nationale pour aider les sinistrés de l'Aude. Des bénévoles de la protection civile de Charente-Maritime sont venus apporter leur aide. On y revient dans quelques instants. Un chiffre record de 11 000 emplois créés en 2017 sur la métropole bordelaise. C'est les résultats d'une étude commandée à l'URSSAF et présentée hier en mairie de Bordeaux. Présenter le plus en détail possible les démarches à faire pour s'installer en agriculture. Hier, un forum pensé pour les élèves était consacré en Charente à cette question. Enfin, les internationaux de tennis de la Vienne, édition 2018, débutent demain à Poitiers. La Française Pauline Parmentier sera tête de série. Après les terribles intempéries qui ont frappé l'Aude lundi, les secours s'organisent sur le territoire national et la solidarité est au rendez-vous. Les secouristes bénévoles de la protection civile de Charente-Maritime sont arrivés mercredi matin pour apporter leur aide. Une des équipes est immédiatement intervenue au monastère de Villardonnelle où une religieuse de 88 ans est décédée, emportée par une coulée de boue. On écoute Thierry Renaudet, chef du détachement pour la Charente-Maritime, au micro de Élodie Chazé.
Sur place avec des personnes qui étaient quand même en détresse pour avoir perdu l'une des leurs, mais également il y a une vague d'eau qui a traversé complètement ce monastère. Il fallait les aider impérativement à remettre tout en état, nettoyer, enlever tout ce qui avait été dégradé. Et ça nécessitait quand même pas mal d'heures de travail avec une dizaine de personnes, plus tous les bénévoles qui venaient nous aider. Notre colonne est au départ, là, nous roulons vers Trèbes, où toute la colonne des renforts de la protection civile va se rejoindre vers le Super-U pour commencer à dispatcher le travail de la journée pour les différentes équipes qui iront sur les différents villages alentours.
Les trois véhicules et 10 bénévoles font partie de l'équipe d'intervention Charentais-Maritime. Au total, ce sont 135 secouristes, tous départements confondus, qui sont mobilisés pour soutenir les sinistrés. À ce jour, il est prévu qu'il reste jusqu'à dimanche. Vous pouvez apporter votre aide et votre contribution par un don sur protection-civile.org. Les créations d'emplois sont en hausse constante dans la métropole bordelaise depuis maintenant 2014. Une étude commandée à l'URSSAF est présentée ce jeudi en mairie de Bordeaux confirme que l'année 2017 est celle de tous les records pour Bordeaux avec 11 000 emplois créés, dont 4 000 uniquement dans la ville. C'est 10 fois plus qu'en 2014 où 1 200 emplois avaient été créés. Et depuis le début de l'année, ce sont déjà 63 sociétés qui ont choisi de s'implanter dans la métropole bordelaise comme Deezer ou Back Market. En 2017, 80 entreprises avaient fait ce choix, dont Betclic, Hermès ou encore Ubisoft, éditeur de jeux vidéo. Julien Maillot est le directeur du studio Ubisoft Bordeaux.
On annonce à peu près 200 emplois à terme, on en est environ à 150. Et c'est vrai que Bordeaux nous permet d'attirer des profils très intéressants. D'abord parce que nous avons des projets chez Ubisoft qui attirent les talents. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite vous avez la qualité de vie bordelaise qui vient ajouter un plus à tout ça. On a choisi Bordeaux pour plein de raisons. Il y avait un historique de jeux vidéo à Bordeaux. Il y a des écoles très importantes pour nous, telles que l'Engmin qui est à Angoulême, pas très loin, qui est une des premières écoles de jeux vidéo en France. Et puis, il y a des profils technologiques à Bordeaux qui nous intéressent. Le jeu vidéo, ça tient sur deux jambes, l'une technique et technologique, donc des ingénieurs de très grande qualité, et puis une autre partie plus culturelle, artistique.
Et l'objectif pour la métropole est de créer 100 000 emplois d'ici à 2030, soit un rythme moyen de 7 000 emplois par an. La Chambre d'agriculture de la Charente et les jeunes agriculteurs organisaient un forum installation hier en Charente. Une centaine d'élèves a suivi de ce forum composé d'ateliers successifs autour de l'installation et toutes les démarches liées à l'installation étaient présentées de l'institutionnel aux coopératives en passant par les associations. Denis Charbonnier.
Installation aidée ou non, transmission familiale, reprise d'exploitation, reconversion professionnelle, tout était présenté. L'enjeu du forum était de montrer aux jeunes qu'ils ne partiront pas tout seuls vers l'inconnu une fois leur diplôme en poche. Clémence a profité pleinement de cette journée pour approfondir son projet d'installation.
Moi, j'aimerais bien m'installer en caprin, fromager. Après, c'est une réflexion qui a porté sur plusieurs années. Je suis hors cadre familial, ma mère est viticultrice, donc il ne m'encourage pas vraiment sur cette voie. C'est à voir, à réfléchir, c'est bien des journées comme ça pour apprendre et se poser d'autres questions.
Ce forum installation se tenait sur l'exploitation d'Hervé Claes. Installé depuis 3 ans à Grassac, c'est un éleveur bovin ovin. Il produit également les céréales et le fourrage dont il a besoin. Être le plus autonome possible, c'est le message qu'il entendait faire passer aux étudiants.
Il faut savoir prévoir et puis après il y a l'agriculture qui évolue énormément aujourd'hui. Donc il faut en prendre conscience et puis il faut savoir s'adapter aussi à la demande des consommateurs qui aussi aujourd'hui demandent de la traçabilité, demandent de la qualité. Voilà, aujourd'hui c'est un céréalier tout simple, c'est difficile de s'en sortir dans ce qu'on faisait autrefois, quoi. Tout ce qu'on va acheter de l'extérieur coûte cher, donc du coup on essaye de faire une agriculture de qualité et on essaye de faire des économies plutôt que d'en dépenser, quoi.
Hervé Claes essaie de se diversifier le plus possible. Il développe aussi la vente directe, un exemple que le syndicat des jeunes agriculteurs et la chambre d'agriculture voulaient présenter à ses étudiants en établissement agricole de Charente.
Et rappelons que l'enseignement agricole en Charente compte 6 établissements publics, 6 maisons familiales et rurales et 2 établissements d'enseignement catholique. L'un est à Ruffec et l'autre à Ségonzac. À partir de demain jusqu'au 28 octobre, a lieu à Poitiers la 29e édition des Internationaux féminins de tennis, événement sportif féminin majeur dans la région. Il accueille cette année une douzaine de joueuses présentes dans le top 100 mondial. Les précisions de Jean-Paul Sauroy, co-directeur du tournoi et président du comité départemental de tennis.
Les qualifications vont débuter samedi. Samedi, dimanche et lundi matin, les qualifications. Lundi après-midi, on attaquera le tableau final. Pour finir donc les finales dimanche 28. En termes d'animation, le temps fort, il va y avoir le tirage au sort du tableau final le dimanche 21. Alors la tête d'affiche et puis une fidèle du tournoi, c'est Pauline Parmentier, qui est aujourd'hui une Française qui est numéro 50 mondial. En plus, Pauline qui vient régulièrement nous voir, je crois s'est fait un objectif de gagner Poitiers. Et puis après, c'est un petit peu la découverte parce que les joueuses qui viennent ici sont, il y a de nombreuses jeunes joueuses et que l'on découvre et qui sont de très bonnes joueuses par la suite. Hein. Toutes les joueuses aujourd'hui qui sont dans le top 10, elles sont passées à Poitiers.
Et l'entrée du tournoi est gratuite jusqu'au mardi 23 octobre. C'est la fin de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en région Nouvelle-Aquitaine qui revient dès lundi. D'ici là, très bon week-end à tous.
C'était Nouvelle-Aquitaine. Merci Blandine Janin et à lundi 18h15. Et sur RCF Bordeaux, l'as-tu vu, c'est jusqu'à 19h. L'as-tu vu la suite ? Les éléments vont se déchaîner dans le concert classique que vous allez nous présenter. Aude Pénicaud, parmi ces éléments, on aura insisté sur l'air auparavant, puisque Gwenaëlle Lamarck, on va revenir sur l'histoire des montgolfières s'envoyer en l'air, comme vous disiez tout à l'heure. Et on va sculpter le bois dans l'exposition d'artistes que vous nous ferez découvrir, Béatrice et Bertrand Dupuis. On n'oubliera pas d'être sauvage. Sauvage, c'est le nom de Tom Phoenix du spectacle d'improvisation que votre compagnie La Cabale présente chaque jeudi 20h30 à Bordeaux. En ce moment, c'est au théâtre La Rousselle. C'est donc L'as-tu vu, c'est vendredi et c'est parti.
Moi mon corps braille avec sous les doigts les épines des mots incolores. Qu'est-ce que le bleu, l'orange, le pourpre, l'indigo. À s'aiguiser les mains pour toutes les luttes. C'était de grands battages, des nerfs, des orphéons de questions. J'étais l'équilibre sur cette corde. J'étais le vernis, le crin de l'archer. J'étais la beauté, la couleur. À s'aiguiser les mains pour toutes les luttes. C'était de grands battages, des nerfs, des fanfares de couleurs.
Cabaret Sauvage, le groupe Lojo sur RCF Bordeaux. Sauvage, c'est le nom de votre création. Tom Phoenix avec la troupe bordelaise de théâtre d'improvisation La Cabale. C'est votre première création avec cette compagnie dont vous êtes le directeur artistique, même si on a pu vous voir précédemment dans d'autres formations. C'est un spectacle entièrement improvisé qui se tient au fur et à mesure de ce qui se construit, au fur et à mesure des propositions des trois comédiens sur scène. Vous indiquez, Tom Phoenix, que même si vous vous connaissez depuis longtemps avec vos collègues de La Cabale, c'est donc la première fois que vous présentez une création. Alors pourquoi maintenant ?
Eh bien parce que l'opportunité se présentait, on a eu c'est d'abord des histoires de temps souvent et après des histoires d'envie. Moi ça fait longtemps que j'ai envie de porter un vrai spectacle d'improvisation, mais il me manquait la méthode qui me permettait de faire quelque chose qui fasse que ce soit pas que de l'impro mais d'abord du théâtre et que ça raconte quelque chose. Et dans l'improvisation que j'avais fait avant et que j'avais appris à faire, je retrouvais pas forcément ça, je me retrouvais avec des canevas intéressants parfois, des choses bien, mais soit j'avais la sensation de plus vraiment improviser, soit j'avais la sensation de plus vraiment avoir de propos. Et là j'ai trouvé ce qui moi me semble me permettre de faire les deux, c'est-à-dire de tenir à la fois un propos et à la fois d'être au théâtre. Mais il n'y a pas de texte, c'est juste ça.
Il y a un texte, enfin il y a du texte, mais c'est vous qui l'a inventé au fur et à mesure.
Et qu'ils découvront, enfin j'ai plus cette conviction-là, c'est-à-dire que bien sûr après on est limité chacun par notre propre vocabulaire, notre propre façon de parler, etc. Mais on a plus tendance à se dire qu'on rentre dans l'histoire du personnage et que finalement c'est ces mots qui émergent à travers nous, quoi, et que on n'est pas là pour lui imposer un dogme ou ce que nous on imaginerait comme étant ce qu'il pourrait dire d'intéressant.
Et donc cette méthode dont vous parlez, c'est la méthode slow que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est ça qu'on a bien sûr retravaillé parce que celle-là est une base qui permet de faire un spectacle qui est particulier, qui s'appelle lui-même slow. Nous on en a fait autre chose, un format où l'histoire peut être un peu plus continue, où il y a une vraie succession de scénettes qui permettent de raconter le propos d'un seul personnage qui devient justement sauvage. Donc on l'a un peu trituré pour en faire quelque chose qui nous correspond vraiment totalement.
Pourquoi sauvage ?
Parce que ça manque un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'avais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'avais envie d'un spectacle qui raconte que, en fait, finalement, on est dans une société qui, et c'est normal, nous inculque beaucoup de règles, des règles qu'il faut suivre, des règles qui sont soit des lois, soit de la morale, soit plein de choses comme ça, qui des fois sont tout à fait justes et qui sont bonnes, en tout cas on le suppose, mais
bonne
c'est quoi
vivre
bon
ensemble.
Voilà, c'est quoi bon, c'est quoi mauvais, et ça m'intéressait de reprendre des personnages qui finalement questionnent ces règles-là et de temps en temps mettent un peu de côté tout ce qui est attendu pour juste... Juste péter un plomb, mais comme plein de gens le font avec les burn-out, comme les gens le font avec les injustices qui défendent, avec les MeToo, avec tout ce qu'on veut, qui pour moi est sauvage et des fois est porteur d'une amélioration de la société, quoi. Et de soi-même aussi, je pense.
On va revenir sur ce que vous présentez dans ce spectacle, notamment la manière dont les personnages deviennent sauvages, même si chaque jeudi soir, ça peut être différent, puisque vous jouez chaque jeudi jusqu'à la fin de l'année, donc au Théâtre de la Rousselle, 77 rue de la Rousselle à Bordeaux, au croisement de la rue de la Rousselle et du cours Victor Hugo. C'est un lieu alternatif de théâtre qui vous accueille jusqu'à la fin de l'année, sauf pour trois dates où vous serez à l'Improvidence, qui est un autre lieu bordelais, lui entièrement dédié à l'improvisation. Vous jouez chaque jeudi soir. Est-ce que vraiment chaque jeudi soir est différent ?
Ah, ça n'a rien à voir. Déjà, les compositions d'acteurs et d'actrices ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire qu'on est sept dans la cabale et qu'on fait en sorte que ça tourne. Alors, il peut arriver que 3-4 semaines d'affilée, ce soient les mêmes acteurs et actrices, mais ce n'est pas forcément le cas. Et ensuite, le spectacle, oui, autant pour nous que pour le public, il doit être 100% différent à chaque fois. Alors, il y a des thématiques qui reviennent. Par exemple, on a eu 3-4 fois depuis le début le harcèlement scolaire, mais parce que je pense que c'est un truc qu'on porte tous en nous, qu'on a dû tous vivre dans la cabale. Donc, il y a quelques thématiques qui reviennent, mais elles ne sont jamais traitées de la même manière. Par exemple, hier, on a eu une scène qui, à mon sens, parlait d'une autre forme de harcèlement scolaire, qui est celui de l'autorité professorale. Et c'était la première fois qu'on le voyait comme ça, de cette manière-là aussi. Et c'était intéressant. C'est toujours différent, en fait.
Jamais vous n'êtes vraiment tombé dans cette facilité, finalement, de se dire « Ah tiens, là, je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière sur ce thème-là » et de le reproposer.
Je crois pas. Je crois que ça nous intéresse pas. En fait, je pense qu'on serait pas bon dedans parce qu'on sent que dans le truc un peu réchauffé, on n'arrive pas à être à 100% en jeu. Ce qui fait que ça marche, l'improvisation théâtrale, à mon sens, c'est le fait que les comédiens sont 100% investis dans le truc et que justement, il n'y a aucun moment où ils trichent.
Béatrice Dupuis, une question ?
Moi, je voulais vous poser une question. Grâce à l'improvisation, vous n'avez jamais de trou de mémoire.
Et c'est vrai, on a d'autres types de trous, effectivement. C'est que on peut se retrouver dans une scène à ne pas savoir quoi en jouer, surtout nous au début, puisque c'est la mise en scène qui prime d'abord, c'est-à-dire que c'est d'abord les corps. Il peut nous arriver de nous dire, oulala, mais que raconte cette situation et quelle est cette histoire qu'on cherche à faire émerger? Mais une fois qu'on est dedans, effectivement, le texte ne nous posera pas problème, a priori.
Parce que pour vous, donc, une situation est là, c'est à vous de la faire émerger. C'est assez intéressant, cette manière de voir.
On croit que dans le plateau, il y a des millions, voire des milliards, ou une infinité d'histoires, et que, effectivement, on est là pour, à un instant donné, faire émerger l'histoire d'un personnage qu'on ne connaît pas encore et qu'on va rencontrer avec le public, qui nous oblige, nous aussi, des fois, à porter des histoires qu'on n'aurait pas envie de porter. Si c'était moi qui écrivais la pièce, il y a des fois où il y a des scènes que, clairement, je ne jouerais pas parce que j'aurais pas envie d'y aller. Là, je suis obligé d'y aller parce que l'histoire, elle est comme ça, elle raconte l'histoire de quelqu'un qui n'est pas forcément très agréable, qui est quelqu'un que j'aimerais pas forcément défendre d'habitude. Mais là, il va bien falloir que je lui donne corps.
Et du coup, cette situation, elle naît, vous dites qu'elle est là, mais elle naît de quoi ? Donc de la rencontre, de ce qui traverse les comédiens à ce moment-là ?
C'est ça, des corps, des énergies en présence, du public aussi des fois, parce que il va y avoir un moment dans le public, soit une énergie, soit un rire, une toux, un truc. Tout ça, en fait, on croit que ça fait matière et que cette matière-là, il faut la travailler et que tout ça, ça fait émerger une scène.
Et on va revenir sur la manière dont ça se passe. Comment est-ce que vous enchaînez vos improvisations ? Revenir sur cette appellation aussi sauvage. On n'oublie pas qu'il faudra nommer les deux comédiennes qui vous accompagnent parmi d'autres de cette troupe La Cabale, de cette compagnie. Sauvage est présentée chaque jeudi soir à 20h30 au Théâtre La Rousselle, 77 rue de La Rousselle, à côté du cours Victor Hugo. On en reparle, Tom Phoenix, juste après avoir pris de la hauteur et modelé du bois.
L'as-tu vu ? RCF Bordeaux.
On part aujourd'hui dans une galerie d'art à Langoiran, Béatrice et Bertrand Dupuis, pour une expo collective de quatre artistes, dont Jérôme Abel-Seguin.
Voilà. Alors donc, c'est en fait cinq artistes.
Ouais.
Et je vous avoue qu'on aurait adoré faire une chronique sur chacun des cinq artistes, tellement on a été emballés par ce qu'on a découvert à Langoiran. Donc, cet endroit, c'est le showroom de Jérôme Abel-Seguin, qui est un designer, sculpteur et qui crée des meubles qui sont tous des pièces uniques, magnifiques.
Donc, showroom, espace de démonstration. Donc, on rentre chez lui, on voit ses pièces.
Voilà. Alors, non, parce que tout est sur rendez-vous actuellement. Parce qu'en fait, pour la première fois, il a ouvert ce showroom, donc,
à 4 artistes qui exposent jusqu'au 28 octobre. Et il faut prendre rendez-vous, on vous donnera les coordonnées à la fin de la chronique, avec Christophe
Cadu-Narquet.
Pour une
qui est
visite,
le commissaire d'exposition.
Voilà, et qui est pour une visite particulière.
Alors, qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, on y voit des meubles, mais également, il y a 4 artistes, il y a 2 photographes, un peintre et un graveur. Tout est en noir et blanc, puisque c'est le thème de l'exposition. Et nous, on a été emballés par tout ce qu'on a vu. On n'arrivait pas à quitter cet endroit. Alors, il y a une peintre qui est formidable.
Alberte Garibaud. On va tous les citer, c'est trop merveilleux. Il y a un photographe qui s'appelle Denis Briat. Il y en a un autre qui s'appelle Nicolas Dubreuil. Et puis, il y a un graveur qui s'appelle Emmanuel Gatti. Là-dedans, on a été obligé de faire un choix, mais c'est absolument une horreur. Donc, on va parler un tout petit peu de Alberte Garibaud, qui est une artiste peintre de grande qualité. Pour faire très simple, elle fait des peintures qui sont de format carré. Elle aime beaucoup Soulages, elle aime beaucoup Hartung, évidemment, ce qui veut dire que je vais vous emmener vers de la peinture noire. C'est de l'abstraction géométrique, mais c'est de l'abstraction géométrique qui mérite qu'on s'approche, et on le dit très souvent avec Béatrice, mais ça veut vérifier encore là. Si on regarde de loin, on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut faire. Et quand on s'approche, on se rend compte que ce sont des incrustations, ce sont des couleurs qui apparaissent, ce sont des petits éclats qu'on ne voit pas du tout et qui font que la toile se réveille complètement. C'est absolument magnifique.
Donc, encore une fois, il faut être curieux, s'approcher.
Encore une fois, il faut être curieux et s'approcher. Quand on est rentré dans cet immense showroom avec Béatrice, on ne savait plus où regarder. D'ailleurs, il a été très malin. Christophe Cadu-Narquet nous a dit « Regardez, puis après on en parlera ». Et on s'est approché. On a fini par avoir quelques clés. Donc, Alberte Garibaud, magnifique peintre. Et puis, Emmanuel Gatti, nous en parlons parce que c'est un graveur. Et on a une image de gravure, surtout après les expositions qui ont lieu à Bordeaux tout à fait récemment.
Au Musée des Beaux-Arts, notamment.
Au Musée des Beaux-Arts, tout à fait, qui est vraiment différent. Là, ce sont quasiment des peintures. Il travaille sur des formats qui sont exceptionnellement importants, puisqu'il y a peut-être des gravures qui font 2 mètres de haut par 1 mètre de large, quelque chose du genre.
Et toute la plaque est gravée ?
La plaque est gravée, c'est-à-dire qu'il y a excessivement peu de sociétés qui peuvent faire ce genre de choses-là. On ne peut pas mettre de verre parce que sinon on déforme tout. Donc on imagine le travail qu'il faut pour arriver à ce que ce soit tendu, joli, présentable. C'est noir et blanc. C'est absolument sublime. On n'oublie pas les deux autres, mais courez vite à Langoiran. D'abord, c'est chouette. Ça va vous faire vous balader un petit peu. Puis cet endroit, c'est génial.
Au bord de la Garonne, donc voilà. Vous nous disiez que vous alliez nous donner les coordonnées pour prendre rendez-vous.
C'est 13-15 rue du Château-Latasse, donc c'est la galerie Jérôme Abel-Seguin.
Et je note en même temps 07-84-92-85-73
et vous aurez un charmant monsieur qui s'appelle Christophe Cadu-Narquet.
Et c'est à la galerie...
Courez ou décollez, puisqu'on va en parler tout à l'heure.
Jérôme Abel-Seguin, 13-15 rue du Château-Latasse à Langoiran jusqu'au 28 octobre. Merci Béatrice et Bertrand Dupuis, à bientôt. Et donc effectivement, accrochez-vous, on s'envole. Gwenaëlle Lamarque, historien, directeur de la Maison de l'Europe, Bordeaux-Aquitaine. On remonte le temps à la date anniversaire de ce jour et on revient cette semaine en 1783.
Et oui, je vais vous parler de Montgolfière. Alors moi, je demande à nos chroniqueurs et à notre invité, pourquoi diable ai-je décidé de vous parler de Montgolfière aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un a une idée autour de cette table ?
Bon, on ne m'a pas demandé mon avis, donc je laisse répondre. Tom Phoenix,
la langue au chat. Eh bien, parce que ce week-end, c'est les 8e Montgolfiades de Saint-Émilion. Et c'est un événement qui a trouvé son public, un espèce de rallye de Montgolfière. Et donc, je me suis tout simplement demandé depuis quand l'homme avait créé ses dirigeables. Eh bien, l'histoire fait bien les choses. C'est le 19 octobre 1783.
Date anniversaire.
Exactement. Qu'à Paris, rue Montreuil, 3 surprenants bonhommes. Jean-Baptiste Réveillon, qui est manufacturier. Jean-François Pilâtre de Rosier, qui est un scientifique brillant. Et André Giroux de Villette, qui est le premier aéronaute de l'histoire, font le premier vol humain en Montgolfière. Alors les frères Montgolfier, qui sont un petit peu à la manœuvre, avaient un peu testé le système un mois auparavant, le 19 septembre, et ils avaient mis dans la nacelle, devinez quoi, pour tester cette Montgolfière.
Un animal.
Exactement, mais quel animal ?
Un chien.
Eh ben non, pas de chien, pas de singe, okay. Non. Un coq, un canard et un pauvre mouton. Il n'y a pas eu d'accident, ce qui a permis ce premier vol humain le 19 octobre 1783. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a eu une résonance scientifique européenne énorme et ça a lancé ici en France et dans le monde tout simplement l'aventure aéronautique. À noter qu'en 1785, c'est le premier dirigeable qui va traverser la Manche et après, de fil en aiguille, il y aura des vols commerciaux, etc. etc. Et naturellement, l'aviation viendra se superposer au début du XXe siècle à ces expériences sous forme de dirigeables.
Et nous remontions donc aux origines de cette aviation. Merci Gwenaëlle Lamarque, à bientôt. Et avant de devenir sauvage avec le spectacle d'improvisation de la compagnie La Cabale que vous dirigez, Tom Phoenix, ou avant de déchaîner les éléments en musique avec le concert classique que vous allez nous conseiller, Aude Pénicaud, dans la suite de Cela tu vu sur RCF Bordeaux, c'est la chanson en concert. Et parmi ceux qui se produisent prochainement par chez nous, on écoute aujourd'hui les étranges sonorités du groupe Exelium. Fifty Shades of Chill, le groupe Exelium sera en concert au Caillou, le bar musical du Jardin Botanique Esplanade Linné à Bordeaux-Bastide, ce soir, tout à l'heure, concert à 20h30.
L'as-tu vu ? Emmanuel Labaïs.
Vous êtes trois sur scène et c'est à trois que se construit le spectacle. On peut peut-être aussi compter sur le public comme quatrième acteur puisque vous intégrez ces éventuelles réactions à vos improvisations. Sauvage, premier spectacle de la troupe bordelaise La Cabale dont vous êtes le directeur artistique Tom Phoenix et c'est donc le moment de citer vos deux partenaires.
Eh bien, hier soir, il y avait aussi Alice Dufour et Maureen Depecker, mais il y en a d'autres, Cécile Cazenave, Laetitia Landel, Pierre-Damien Gouache. Et forcément, je vais zapper quelqu'un
il
et me faire
détester. Ça y est, c'est fait. C'est très agréable de sentir votre complicité sur scène. Vous avez besoin les uns des autres pour avancer. Vous le faites donc ensemble. C'est parfois fragile. Parfois, on se demande si c'est vraiment de l'improvisation. Alors, on redit, c'est vraiment de l'improvisation.
Ah, c'est vraiment de l'improvisation. Le mieux étant de venir chaque semaine pour le vérifier parce qu'on ne pourrait pas écrire autant de textes. Il y a trop de quantité de textes et d'impro. Ah oui, c'est vraiment 100% improvisé de A à Z.
scène.
Donc au début, le spectateur s'assoit, vous faites vous des mouvements à vue du public, vous vous échauffez, vous prenez possession de l'espace. Et puis ça y est, comment est-ce que vous avez convenu de commencer? Qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Ce soir, c'est toi qui commences ou même pas?
Même pas. On se dit que la personne qui pense qu'elle a la meilleure matière, la meilleure chose pour démarrer, qui estime avoir quelque chose de fort à découvrir, va démarrer, rester là, donc ça dépend des soirs, voilà, il y a toujours quelqu'un qui s'y colle, entre guillemets, et on le découvre aussi, quoi. Des fois, il se trouve qu'on est deux à vraiment avoir envie de démarrer, bah, il y en a un qui lâche, il faut qu'il y en ait un ou une.
Tourner en rond, passer devant les autres, se placer à un endroit de la salle, on vous voit faire ça pendant que les autres sont déjà en train d'improviser. Arriver comme ça sur l'espace de jeu, c'est une manière de sentir l'ambiance, d'une part, et de dire aux autres que vous êtes prêt vous-même à entrer dans le jeu.
C'est ça, et puis c'est aussi l'idée de on improvise, on n'a pas envie de tricher avec ça, donc on est aussi en train de construire en direct. Donc il y a des sortes de fondus, il y a des moments où il y a un premier plan où on voit vraiment les acteurs, actrices en train de jouer, et puis derrière il y a quelqu'un qui est en train de se placer. On ne sait pas encore ce que c'est, lui ne le sait pas ou elle ne le sait pas, et pourtant ça va émerger, et donc on s'autorise à faire ça sous les yeux du public parce qu'on estime que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir comment la création se fait finalement. C'est ça la thématique aussi de l'impro, et c'est pour moi la différence avec le théâtre plus classique, que j'aime aussi, mais c'est qu'effectivement, le théâtre est là pour présenter un produit fini sur lequel on a réfléchi de bout en bout. Nous, on est là pour présenter un produit fini sur lequel on n'a pas réfléchi avant.
Comment est-ce que vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, d'enchaîner?
Eh ben, on se demande si la scène a donné ce qu'elle avait à donner, c'est-à-dire qu'en général, on se dit, mais de quoi parlait cette scène? Et est-ce qu'on allait au bout des choses? Si c'est une mère et une fille et que ça parle effectivement, ben, hier, on avait le rapport de séduction d'une fille qui cherchait à être conseillée par sa mère. Ben, une fois qu'on est allé au bout et qu'on estime que cette scène-là a un peu livré tout son jus, quoi, qu'on ne pourra pas en dire plus, et que ça y est, l'essentiel a été dit, et on passe à la suite. Mais c'est un peu au feeling.
Du coup, est-ce qu'on est toujours prêt quand on se lance?
Si tout va bien, on n'est jamais prêt.
Ouais.
Si tout va bien, on y va, on n'a rien, et vraiment, on le découvre en même temps. Et moi, je crois beaucoup à la mise en danger, en fait, surtout dans un spectacle qui s'appelle Sauvage. Si nous, on fait tout de manière très cadrée, qu'on a déjà mis des petites barrières à des endroits, des petites sécurités à droite à gauche, je crois que ça fera rien émerger du tout et que finalement, c'est une arnaque. Et donc, comme je veux pas qu'on arnaque le public et que je veux pas qu'on s'arnaque nous-mêmes, non, on n'a rien, on y va. À part, effectivement, on a besoin dans la dramaturgie d'amener un élément d'injustice. Donc là, on peut se permettre d'amener un petit événement. Et c'est tout ce qu'on va se permettre parce qu'on sait que c'est nécessaire.
Un exemple,
bah, hier, il y a une scène où effectivement, il y a une jeune fille qui est en train de défier sa copine à celle qui va sauter le plus haut. Et c'est un jeu d'enfant. Et moi, j'arrive et je fais un professeur qui lui demande d'arrêter de défier l'éducation professorale, justement, et ce titre-là que moi, je représente. Et ben là, c'est clairement moi qui me dis « Ok, là, il faut amener ça, on va aller traiter de cette thématique-là parce que je l'ai senti dans la première scène, ça m'intéresse et c'est là-dedans que j'ai envie de pousser. » Donc, pour quelques répliques, là, pour le coup, je viens avec vraiment une envie particulière de voir ce que ça donne si je mets cette injustice-là.
Bertrand Dupuis ?
Est-ce que vous débattez après le spectacle, vous, les comédiens, de ce que vous avez joué, de ce que vous avez donné ?
Oui, carrément. C'est hyper intéressant, c'est très riche. Il y a vraiment une troisième mi-temps. De toute façon, on débat aussi avec le public, c'est-à-dire qu'on propose aussi au public de rester après le spectacle et d'en parler avec eux. Parce que ça nous intéresse de savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. Des fois, il y a des liens que nous, on n'a même pas fait en jeu. Ah, mais le personnage de la première histoire, en fait, c'est celui de la troisième histoire. Ah bon ? Et nous-mêmes, on le découvre. Et entre nous, c'est aussi intéressant de se dire, mais en fait, là, ce que t'as compris, ce que moi, j'avais ressenti dans cette scène. Et des fois, on se dit, non, pas du tout. Ça arrive aussi, c'est le jeu de l'improvisation. Et ça nous permet, nous, d'évoluer ensemble parce qu'on se rend compte aussi des limites ou des envies de chaque comédien, comédienne. Hier, voilà, on a eu cette question après de... Là, à un moment, je me suis senti en difficulté. Vous ne l'avez pas senti, vous n'êtes pas venu m'aider. Et c'est intéressant parce que nous, ça nous permet de mettre le curseur, de dire, ok, d'accord, donc ça, c'est sa manière à elle d'émettre qu'elle est en difficulté.
Voilà, l'importance de bien se connaître.
Exactement. Et je pense qu'il faut aussi jouer face à un public. Comme ça, on y arrive mieux.
Aude, Pénicaud ?
Envisagez-vous que le public puisse proposer des thématiques, enfin, autour de ce thème général que vous proposez, sauvage, mais qu'il puisse vous proposer des situations ?
Alors, non, pas sous cette forme-là, parce qu'en fait, quand on voit le spectacle, en réalité, il n'y a pas de moment où on parle vraiment avec le public directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présentation au début du spectacle. Vous rentrez, vous vous asseyez, on est là, on se regarde, mais on...
C'est
on
ça vous... qui change par rapport à d'autres spectacles d'improvisation aussi.
Exactement. On n'est pas en train de vous dire, attention, vous allez voir l'improvisation théâtrale, les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont faire, etc. Alors ça se passera comme ça, la forme, c'est ça. On vous dit rien. Il y a une musique qui démarre. Il y a une première impro et rien n'a été dit. Et on tient à garder ça parce que ça fait partie aussi de nos croyances de ça émerge et ça vient comme ça. Si on avait une sorte de thématique, on serait obligé de la cérébraliser et je tomberais forcément dans un cliché de ce que moi j'ai en tête du harcèlement scolaire. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend vraiment en compte le public dans ses réactions le soir même. Hier, il y a une dame qui a défendu la jeune fille justement qui se faisait maltraiter par ce professeur. Au bout de 15 secondes de spectacle, j'ai déjà eu quelqu'un qui s'est quasiment levé pour protester. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Mais très très vite, il y a eu une rébellion quoi, du public.
Béatrice.
Oui, et à quel moment vous sentez qu'il faut que ce soit la fin? Parce que vous nous dites que c'est un spectacle d'une heure, mais si l'histoire n'est pas finie, comment vous faites?
Eh ben, ça dure plus longtemps. Ça peut durer 1h10, 1h15, 1h20. Après, on essaye de faire en sorte que les histoires ne durent pas un temps infini. En général, on pousse quelque part. Pour nous, la fin, en fait, c'est quand le personnage arrive à cet état de grâce un petit peu, où il devient sauvage, quelle qu'en soit la forme. Hier, il y a eu effectivement une vraie révolte dans la classe, avec toute la classe qui se soulève. On a eu aussi, à la fin, quelqu'un qui est devenu sauvage en offrant de l'amour à tout le monde.
Mais il y a aussi, ce n'est pas qu'une histoire qui est racontée, ce sont différentes scénettes. Et parfois, vous jouez une situation et puis un autre personnage arrive et vous changez de personnage.
Exactement.
Vous ne tenez pas les personnages du début à la fin, ce n'est pas une histoire qui se construit sur une heure. C'est une heure d'improvisation, voilà, avec différentes scénettes qui sont jouées. C'est aussi l'improvisation assez délicat pour le comédien, on se dévoile beaucoup. Le comédien de théâtre dévoile ses sentiments, la manière dont il interprète le texte écrit. Et j'ai quand même été agréablement surpris par vos propos. On a pu voir ailleurs des propos plus vulgaires ou des platitudes absolument banales dans des spectacles d'improvisation. On pourrait croire que vous avez des choses à dire, Tom Phoenix. Est-ce le cas?
En tout cas, c'est ce que l'on veut défendre et c'est ce que tous mes collègues et moi-même essayons de tenir. On se sert clairement de ces personnages qu'on découvre pour véhiculer des messages qui nous sont propres et qui nous appartiennent. Hier, on a parlé du harcèlement sexuel, on a parlé des violences conjugales envers les hommes. Et effectivement, on prend ce médium de ce personnage-là qui a déjà cette problématique-là. Alors, on espère être fin et juste, effectivement, avec ce risque que on improvise et des fois, on peut mettre les pieds dans le plat sans l'avoir voulu et de toujours rester surtout dans le propos du personnage, c'est-à-dire qu'on a quand même une sécurité. Et les gens comprendront que ce personnage-là est une dure quelque part et il faut pas s'y attacher, c'est pas le comédien qui pense ça, c'est qu'il interprète quelqu'un qui est comme ça et c'est aussi une manière de jouer l'horreur pour la combattre.
Et ça s'appelle Sauvage, c'est chaque jeudi soir 20h30 jusqu'à la fin de l'année au théâtre La Rousselle, 77 rue de La Rousselle à Bordeaux, au croisement du cours Victor Hugo. Vous serez aussi parfois, mais pour 3 dates seulement, à l'Improvidence. On retrouve ce calendrier sur cabale.fr, votre site internet. Merci Tom Phoenix. Vous restez avec nous, on va concilier les éléments.
L'as-tu vu ? RCF Bordeaux.
Aude Pénicaud, vous attirez notre attention sur un concert de musique classique. Les éléments, c'est une pièce musicale de Jean-Ferry Rebelle qui sera donnée lors d'un concert demain samedi au Pingalan.
Oui, c'est demain soir au Pingalan. Vous savez que le Pingalan, pour ses 30 ans, a fait une belle programmation cette année qui fait une belle part aussi à beaucoup de concerts classiques. Et demain soir, je vous emmène entendre des chanteurs à bout de souffle. On pourrait craindre pour eux.
Les pauvres.
Mais en fait, c'est le nom de l'ensemble vocal et instrumental qui est dirigé par Stéphane Delinca, qui est un musicien de très grand talent, un jeune musicien toulousain. Et le point commun, en fait, entre les 3 œuvres qui vont être données dans ce concert, c'est vraiment le souffle et un sens de la dramaturgie. Il y a un chef-d'œuvre, le Magnificat de Bach, tout le monde le connaît. Et puis, il y a 2 œuvres moins connues. Il y a le Dies Irae de Michel Richard de Lalande, qui est plus connu pour son De Profundis, l'œuvre qui est passée à la postérité, mais qui a extrait de cet hymne de l'Apocalypse, qu'est le Dies Irae, Dieu en colère, qui est en général donné dans le cadre de la liturgie du Requiem, de la Messe des Morts. Il a extrait ce Dies Irae et il en a fait une pièce à part qui est absolument magnifique, et pas très connue, et qu'il faut vraiment aller entendre. Et puis il y aura quelques extraits justement des éléments de Jean-Ferry Rebelle, qui était en fait le beau-frère de Michel Richard de Lalande. On se retrouve, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Et je vais vous faire entendre tout à l'heure un extrait, le tout début de ces éléments, ça s'appelle le Chaos. Et c'est extraordinaire parce que là, on est dans une harmonie extrêmement novatrice et très moderne, en fait, pour un
c'est
musicien.
Époque,
parce qu'on est en 1737, là. Voilà. Et alors, ce que vous allez entendre, c'est le chaos, c'est dissonant, c'est extravagant. C'est amusant d'entendre qu'à cette époque, voilà, on pouvait faire des choses aussi novatrices.
Ça donne envie, on l'écoute tout de suite. Et cette pièce, Les éléments, sera donc jouée par cet ensemble À bout de souffle demain soir au Pingalan.
Voilà, mais alors seulement certains extraits des éléments, parce que les deux pièces maîtresses, ce sont vraiment le Magnificat de Bach et le Dies Irae de Michel Richard de Lalande. Mais il y aura quelques extraits. Alors, je ne sais pas s'il y aura le chaos, mais je voulais vous le faire entendre parce que voilà, dans le chaos, après on entend l'air, le feu, la tempête, l'eau, etc. Il y a vraiment tous les éléments. C'est une pièce en un prologue et 9 mouvements. Et si ça vous intéresse, essayez de la trouver, de l'entendre parce qu'elle est vraiment intéressante.
De Jean Ferry Rebelle, c'est voilà. Le nom de ce compositeur. À bout de souffle, l'ensemble vocal et instrumental qui va l'interpréter demain soir, samedi, au Pingalan de Mérignac avec Bach et de Lalande également au programme. Merci Aude Pénicaud, à bientôt. Et dans la suite de nos L'as-tu vu, avant le générique de fin, c'est l'album de la semaine. Un extrait par jour d'un même CD à la même heure et nous écoutons un ténor que j'ai personnellement découvert justement, Aude, dans votre émission Allegro Vivace, émission quotidienne sur notre antenne. J'y ai appris que c'était la coqueluche du moment, même si ce n'est pas tout à fait comme ça que vous présentiez les choses. Jonas Kaufmann, il ouvrait la saison musicale de l'Opéra de Bordeaux. Il vient de sortir un album An Italian Night, où il reprend des airs italiens, populaires ou d'opéra, et on écoute dans une composition de Vincenzo de Crescenzo.
Vestita, all'uscio rischiuda il gran sol, e già con le rose sui dita, arrezza dei fiori lo suol. Oh, ma sono un tremi corcano, intorno il creato accapar, e tu non diresti, ed in vano, qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor.
Le ténor Jonas Kaufmann, extrait de son dernier enregistrement An Italian Night, on en écoutait des extraits toute la semaine. Et ces albums, nous les empruntons chez notre disquaire bordelais partenaire, la machine à musique Lignerolles, où vous pouvez les y retrouver. Se referme maintenant notre L'as-tu vu du jour. Merci Aude Pénicaud, Gwenaëlle Lamarck, Bertrand Dupuis, Béatrice Dupuis. Et merci Tom Phoenix, directeur artistique de la Cabale, la troupe bordelaise d'improvisation, qui présente Sauvage au théâtre La Rousselle ou à l'Improvidence à Bordeaux, chaque jeudi soir 20h30 jusqu'à la fin de l'année. On revient lundi 18h10, mais on ne sera pas vraiment là. L'as-tu vu par une semaine en vacances. On reviendra en vrai dans ce studio. Le lundi d'après, nous y parlerons de la nouvelle exposition de Cap Science sur les effets spéciaux, avec ce titre « Effets spéciaux, crever l'écran ». Et Tom Phoenix, de même que l'invité de la veille, vous a posé une question en début d'émission. Est-ce que vous avez une question à poser à Sébastien Cursan? Il est concepteur de projets culturels pour Cap Science. Il sera notre invité donc dans un peu plus d'une semaine. Question en rapport ou pas avec son exposition, avec Cap Science ou avec les effets spéciaux?
Eh bien, je suis pris de court. Et oui, effectivement, là, il faut que j'improvise, mais pour le coup, moi, je vous dis, je suis pas trop texte. Non, mais effectivement, je pense que ce sera très intéressant et que j'irai la voir à titre personnel. Ce qui va effectivement, moi, le plus m'intéresser, c'est justement, est-ce qu'on peut ou pas interagir dans ce type d'exposition? Est-ce que les effets spéciaux sont interactifs ou pas? Est-ce que ça se regarde? Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça s'admire?
Merci Tom Phoenix. Et pour avoir votre réponse, soyez à l'écoute, non pas ce lundi mais l'autre, 18h10. Et pour aujourd'hui, merci à Manon Marié à la préparation et la réalisation de cette émission.